France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires sensibles, le meurtre de Mireille Knoll. Le 23 mars 2018, cette dame juive de 85 ans est retrouvée morte dans son appartement du 11e arrondissement de Paris. Son corps a été poignardé de 11 coups de couteau, puis brûlé. En quelques heures, on retrouve le coupable, Yassine Mihoub, 28 ans, son voisin. Ce drame frappe en plein cœur la communauté des juifs françaises déjà meurtrie par une succession de crimes antisémites. D'autant que cette affaire rappelle le meurtre, un an plus tôt, de Sarah Halimi, une femme juive de 65 ans, défenestrée par un islamiste. Ce meurtre, à l'époque peu médiatisé et dont la motivation antisémite a tardé à être évoquée, avait alors provoqué la sidération des juifs de France, et au-delà d'ailleurs. Mais cette fois c'est différent. En quelques jours, Mireille Knoll devient le symbole de la lutte contre l'antisémitisme et mobilise toute la classe politique. Notre invité aujourd'hui, Thomas Legrand, journaliste éditorialiste pour le journal Libération et producteur de l'émission Enquête de politique tous les dimanches à 18h10 sur France Inter. Affaires sensibles, une émission de France Inter. Récit documentaire, Lisiane Larbani, rédaction en chef Franck Cognard, chargé de programme Rebecca Denante, réalisation Charles de Silia.
Fabrice Drouel. Affaires sensibles sur France Inter.
Vendredi 23 mars 2018, 18h30. Une résidente de l'immeuble du 30 avenue Philippe-Auguste, Paris 11e, appelle les pompiers. De la fumée s'échappe de l'appartement de sa voisine de palier, Mireille Knoll. Cette dame de 85 ans habite l'immeuble depuis plus d'un demi-siècle, une éternité. Chaque jour, elle reçoit les visites de ses fils, Alan et Daniel, de son kiné ou de ses auxiliaires de vie. Alors sa voisine est très inquiète. Sur place, les pompiers forcent la porte d'entrée. À l'intérieur, ils découvrent l'appartement en partie ravagé par les flammes, les murs et les meubles du salon noircis par la fumée. Puis, dans la chambre, le corps sans vie de Mireille Knoll, en partie brûlé. La vieille dame, en chemise et pantalon noir, basket blanche aux pieds, a les jambes hors du lit, comme si elle avait tenté de s'échapper. La police scientifique découvre qu'en réalité, elle a été poignardée de 11 coups de couteau sur le torse et le ventre. Dans le même temps, les pompiers identifient plusieurs départs de feu. Dans la cuisine, les quatre robinets de la gazinière sont ouverts, mais heureusement, l'arrivée générale est fermée. Les premiers résultats d'autopsie tombent. La victime n'a pas inhalé de fumée. Elle est morte avant l'incendie. Mireille Knoll a été tuée et quelqu'un a voulu éliminer les preuves du crime en mettant le feu. Au 30 avenue Philippe-Auguste, les résidents sont sidérés.
Mireille Knoll, 85 ans, se déplaçait avec difficulté, mais tenait à faire sa promenade quotidienne, où elle croisait souvent Philippe, dont la famille a aussi emménagé ici dans les années 60.
C'est quelqu'un qui était plutôt enjoué, très très gentil, et qui me paraissait ne pas avoir d'activité qui puisse la mettre en danger. C'est quelqu'un d'extrêmement discret.
Mireille Knoll ne parlait presque jamais de son enfance, où elle échappa de justesse à la rafle du Veldiv, mais elle retrouvait parfois son voisin du 8e, Félix, qui préside l'association des enfants juifs rescapés du 11e.
C'était une rescapée de la rafle du Veldiv. Et ça m'a touché énormément, puisque mes parents sont morts en déportation. Quand même, elle a vécu la guerre, elle a vécu mourir dans des conditions comme ça, être brûlée, c'est quelque chose de terrible.
Qui a tué Mireille Knoll? Et pourquoi? Pour en savoir plus, les enquêteurs toquent à toutes les portes. Et les voisins sont unanimes, la vieille dame s'entend bien avec tout le monde. Parmi les habitants de l'immeuble, Zulika Kelaf, 7e étage, depuis 20 ans. Elle connaît bien Mireille Knoll. Son fils de 28 ans, Yassine Mihoub, s'entendait particulièrement bien avec la victime. D'ailleurs, il a passé une partie de l'après-midi chez elle, ce que la famille Knoll confirme. Ce n'est pas la première fois que le jeune homme rend visite à leur mère. Il lui arrive de passer à l'improviste, pour boire un café. Il lui fait aussi quelques courses. Ensemble, ils discutent de tout, d'histoire, de politique. Mireille Knoll a 85 ans, mais elle est loin d'être déconnectée du monde qui l'entoure. Alors, les enquêteurs veulent entendre ce Yassine Mihoub. Mais il est parti, dit sa mère. Elle ne sait pas quand il reviendra, s'il reviendra d'ailleurs. Plutôt du genre instable, fiston. Mais les soupçons des policiers se confirment. Yassine Mihoub fait l'objet de multiples plaintes et d'une quarantaine de mains courantes. Sa liste de condamnations judiciaires est longue. Comportement violent sur la voie publique, menace de mort, vol avec arme, fausse alerte à la bombe, mais aussi viol et agression sexuelle. Et bien évidemment, tout ça les voisins l'ignorent. Sur France Inter, le ministre de l'Intérieur de l'époque, Gérard Collomb, revient sur le profil du suspect.
Lui, c'était le profil petit voyou de quartier qui allait faire des rapines. Je rappelle qu'il devait avoir au tage 22, 24 tages, donc inscription au fichier. Donc on voit bien qu'il avait commis toute une série de larcins avant de tuer cette personne.
Et dans ce cas-là, est-ce que vous voyez un dysfonctionnement, vu qu'il était connu des services de police et...
Mais le président de la République a dit encore, je crois, ces jours-ci, qu'il fallait que les peines soient effectuées. Je pense que quand vous avez 24 faits inscrits au TAJ, à un moment donné, il faut que la justice soit radicale.
Cela faisait un moment que Yassine Mihoub n'avait pas mis les pieds dans l'immeuble. Et pour cause. Entre février et septembre 2017, il était incarcéré à Fleury-Mérogis où il purgeait une peine pour agression sexuelle sur mineur. Condamné à 24 mois, il sort au bout de 6. Et les termes de son contrôle judiciaire sont clairs. Il a interdiction de se rendre au 30 avenue Philippe-Auguste. Car la victime est la fille de l'auxiliaire de vie de Mireille Knoll. Les faits ont été commis dans son appartement. Depuis sa sortie de prison, Mihoub squatte à droite et à gauche, chez son frère, sa mère et chez Mireille Knoll, qui considère que Yassine est un bon garçon, qui mérite comme tout le monde une seconde chance. Elle a même témoigné en sa faveur auprès du juge. Oui, elle lui fait confiance, elle qui le connaît depuis ses 8 ans. Elle est comme ça, Mireille Knoll, elle a foi en l'humanité, alors qu'au cours de sa vie, elle en a côtoyé le pire, l'horreur du nazisme. Juive ashkénaze, elle est née en 1932. Ses parents, venus de Pologne et d'Ukraine, fuient les pogroms du début du XXe siècle et s'installent à Paris. Mireille grandit dans le quartier du Marais. À l'âge de 10 ans, en juillet 1942, avec sa mère et son frère, elle échappe de peu, on l'a dit, à la rafle du Veldiv et parvient à fuir au Portugal, puis au Canada. La famille rentre en France après la libération et à l'âge de 16 ans, Mireille rencontre Kurt Knoll, un rescapé d'Auschwitz avec qui elle va fonder sa famille, croisant l'histoire de nombreuses familles juives hantées par le spectre de la guerre et de la Shoah, qu'on évoque le moins possible. Son fils Daniel témoigne au micro de France Inter.
C'était une femme extrêmement ouverte sur le monde, qui aimait tout le monde, qui était d'une bonté incroyable et qui ne méritait pas ce sort. On est complètement dévasté. Et je me demande maintenant, dans mon futur, comment je vais vivre avec ça? J'imagine ce que ma mère a dû souffrir et c'est insupportable. Nous avions déjà souffert avec mon père qui était un ancien déporté. Et là, on se retrouve avec une mère assassinée. Ça veut dire que toujours, les gens ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas ce que c'est qu'être juif. Ils ne peuvent pas savoir. On ressouffre de nouveau, mais d'une façon insupportable. Insupportable. Et nous aimons la France. Nous l'aimons profondément.
Le lendemain du crime, les enquêteurs retournent sur les lieux du drame. Dans les escaliers, ils tombent nez à nez sur Yassine Mihoub, un sac de sport à la main. Placé immédiatement en garde à vue, il admet avoir passé une partie de la journée chez Mireille Knoll. Puis, il précise, oui c'est vrai, il était là lorsque la victime est morte, mais il n'a rien fait. Non, c'est le Marseillais qui a tué Madame Knoll, affirme-t-il. Le Marseillais, c'est Alex Arimbacus. Un sans-abri de 22 ans que Mihoub a rencontré dans la cour de promenade de Fleury-Mérogis. Un jeune homme en errance, connu de la justice pour des vols. Mais lui raconte une toute autre version de l'histoire. Il assure avoir reçu le vendredi 23 mars, en début d'après-midi, un appel de Yassine Mihoub. Rendez-vous est pris dans le quartier de Nation. Mihoub lui vend un plan pour se faire de la thune, je le cite. Où ? Chez Mireille Knoll. Pourtant, l'appartement d'Aïefan ne fait pas rêver. Tout est dans son jus, elle vit plutôt modestement. Oh, il y a bien quelques petites horloges, des boîtes à bijoux dans le buffet du salon, que Karim Bacus s'empresse de dérober d'ailleurs. Des manteaux de fourrure dans la chambre d'amis également. Mais Yassine Mihoub est convaincu que les Juifs ont, selon son complice, des moyens financiers et une bonne situation. Il leur reproche même d'être blindés, friqués. Son antisémitisme commence là, un antisémitisme forgé par l'ignorance. Tout comme son complice, Karim Bacchus, persuadé lui aussi que Mireille Knoll a des biens précieux. C'est bien connu, ils sont tous friqués, ces juifs. Doit bien y avoir de l'or et des bijoux à voler. Mais lui, c'est un voleur, pas un tueur, assure-t-il. Non. C'est Mioub qui a tué Madame Knoll. Il raconte que ce dernier a porté la vieille dame jusque dans son lit médical et l'a poignardée en criant « Allahu Akbar ». Les deux hommes sont mis en examen pour meurtre à caractère antisémite sur personne vulnérable. Pour le parquet, c'est clair. Mireille Knoll a été tuée parce qu'elle est juive.
Dans le quartier, les voisins sont encore sous le choc.
Bonjour monsieur, comment elle était Madame Knoll en
marche ? Madame Knoll était handicapée. Dans un fauteuil roulant, elle avait 85 ans. C'est une rescapée de la Shoah, c'est tout ce que je peux vous dire.
Les obsèques de Mireille Knoll auront lieu demain matin.
La mort de Mireille Knoll plonge les Juifs de France dans l'effroi. Encore une fois, ils sont une cible. 11 meurtres en 12 ans. Ilan Halimi en 2006, crime atroce et sadique. Myriam Onsenego, Jonathan Gabriel et Ariane Sandler en 2012. Et puis, Johan Cohen, Philippe Braham, François-Michel Saada, Yoav Attab, tous tués à l'Hypercacher, porte de Vincennes, en 2015. Ces actes ignobles poussent de plus en plus de Juifs à partir. Oui, aujourd'hui ils ont peur, affirme le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, au lendemain de la mort de Mireille Knoll. Ils quittent la France parce qu'ils ont peur en France. Les chiffres de l'Alia, autrement dit l'émigration en Israël des Juifs venus du monde entier, le montrent. En 2015, selon une agence israélienne semi-gouvernementale, 8000 Juifs quittent le territoire français. Une année record qui s'expliquerait par un sentiment d'insécurité en hausse. Sentiment sur lequel s'appuie le gouvernement israélien pour accueillir toujours plus de nouveaux citoyens. Et à chaque drame, le Premier ministre Benjamin Netanyahou appelle les Juifs d'Europe à émigrer en Israël. D'ailleurs, très vite, il téléphone aux enfants de Mireille Knoll. Un entretien retransmis en direct sur une chaîne de télévision israélienne. La mort de l'octogénaire terrorise d'autant plus qu'elle a été tuée chez elle, dans son lit. Parce que ce meurtre rappelle, près d'un an plus tôt, celui de Sarah Halimi, une dame juive de 65 ans, battue et défenestrée par l'un de ses voisins, Kobili Traoré, 27 ans. Tellement de similitudes entre les deux affaires. Le plus jamais ça qui recommence dans le même immeuble. Terrible. Deux femmes retraitées, tuées chez elles par leurs voisins, des individus au rapport conflictuel avec l'altérité, surtout si elle est juive. Et au lendemain du meurtre de Mireille Knoll, un autre crime va bouleverser la France. Le gendarme Arnaud Beltrame meurt à Trèbes, tué par un terroriste islamiste lors d'une prise d'otage.
Son nom, son visage s'affiche partout depuis trois jours, depuis qu'il a donné sa vie pour en sauver une autre. Le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame, qui a pris la place de la dernière otage du supermarché de Trèbes vendredi face aux terroristes, aura donc les honneurs d'un hommage national dans les jours qui viennent. Cérémonie aux Invalides à Paris, d'après Le Figaro, en présence d'Emmanuel Macron, qui devrait aussi prononcer l'éloge funèbre du gendarme.
Le camp de la liberté, celui de la France, est confronté aujourd'hui à un obscurantisme barbare qui n'a pour programme que l'élimination de nos libertés et de nos solidarités. Valeur niée par le meurtrier de Mireille Knoll, qui a assassiné une femme innocente et vulnérable parce qu'elle était juive, et qui ainsi a profané nos valeurs sacrées et notre mémoire.
Un obscurantisme barbare. Mireille Knoll a été tuée parce qu'elle était juive, ce qui est parfaitement exact. Mais le profil des deux assassins est différent. Le tueur d'Arnaud Beltrame était fiché S depuis 2014 et suivi par les services de renseignement pour sa radicalisation. Un profil différent, oui, de celui de Yassine Mioub. Néanmoins, de nombreux éléments montrent l'intérêt de ce dernier pour les préceptes haineux de l'État islamique. D'ailleurs, il ne cache pas son admiration pour les terroristes des attentats de janvier et de novembre 2015. Sur les murs de sa cellule en prison, il a écrit des messages comme « Les frères Kouachi ne sont pas morts pour rien » ou « Koulibaly, RIP », autrement dit qu'il repose en paix. On découvre aussi qu'il s'est constitué une liste de livres, reportages et documentaires sur le djihad, Oussama Ben Laden, Medine Moshou Mohamed Merah. Une analyse de son ordinateur permet aussi de découvrir les recherches qu'il a entreprises sur la charte islamiste, la charia. Il regarde aussi des vidéos qui évoquent la présence de trop de juifs à la télé. Puis il consulte des sites internet sur les frères musulmans, l'islam salafiste et les sourates du Coran qui évoquent les juifs, ainsi que des articles sur la haine des chrétiens et des juifs dans le Livre Saint. Pourtant, on ne peut pas dire que Yassine Mioub soit un pieux musulman. Selon sa sœur, il ne parle pas arabe, il boit de l'alcool, il ne fait ni le ramadan ni la prière. À son procès, sa mère dira « Quand il sort de prison, le Coran, il n'en a rien à foutre ».
Président tout un temps, billet plan violet en vol au vent, survolant livraison. Gilet blanc d'achète sans cacher dans casier d'adolescent. Cardigan Louis Vuitton pour 2 francs, montant de fabrication. Prisonnier isolé, réveillé par biais de chiffonnier. Salarié sous-payé, avarié, soudoyé, suicidé. Lampadaire sans lumière, éclair, SDF et bandoulière. Antipode de la mort, dandicose, peu clamant visionnaire. Tatouage insensé, cafouillage de pensée tout l'été. Dénudé, pendu, blé, très moussé sous l'effet de la scène. Policier étranger, dérangé. Pour ce qu'il est pour foncer, Odyssée, mystifié, colisé, réparé, offensé. Dems. Qui sont-ils quand ils l'ont jamais vraiment été? Personne n'a déjà rêvé de naître. Perdu dans le berceau, je n'ai pas cessé de naître. J'ai couru dans mon cerveau jusqu'au fond de mon être. J'ai trouvé loin de mes vaisseaux tout ce qui faisait mon être. Personne n'a déjà rêvé de naître. Perdu dans le berceau, je n'ai pas cessé de naître. J'ai couru dans mon cerveau jusqu'au fond de mon être. J'ai trouvé loin de mes vaisseaux tout ce qui faisait mon être. De la gériatrie à la maternité, des félicités au RIP. On fait tout d'avance parce qu'il n'y a pas de replay. Tout peut s'arrêter, les 2 barres parallèles sont des carrés dans la réalité. Toujours paniqué, car toujours paniqué. Vie, mort, mensonge et vérité. Une infinité de fins, ou une fin à une infinité. Déguisé en être humain, brun, semblant d'humanité. Charnel sans les générosités, pour hypnotiser les gens. Pendant que mendiants immigrés se mettent à copiner des clans. Se mettent à cotiser des camps, où sont entassés des gens. Je crois que le plus intelligent serait d'avouer qu'on est con. Serait d'avouer qu'on est blanc, noir ou quel que soit le ton. Voir ce que nous laisse le temps, croire en nous mais sans le en. Car qui sommes-nous vraiment quand on l'est pas vraiment? Personne n'a déjà rêvé de naître. Perdu dans le berceau, je n'ai pas cessé de naître. J'ai couru dans mon cerveau jusqu'au fond de mon être. J'ai trouvé loin de mes vaisseaux tout ce qui faisait mon être. Personne n'a déjà rêvé de naître. Perdu dans le berceau, je n'ai pas cessé de naître. J'ai couru dans mon cerveau jusqu'au fond de mon être. J'ai trouvé loin de mes vaisseaux tout ce qui faisait mon être.
Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, le meurtre de Mireille Knoll.
Affaires Sensibles sur France Inter.
Tandis que l'enquête policière continue, le visage de Mireille Knoll s'affiche partout, à la télé, dans les journaux. La grand-mère aux yeux rieurs, le sourire aux lèvres, bouleverse le pays. Sa mort fait aussi largement réagir la classe politique. À peine l'enquête débutée, Mireille Knoll devient symbole de la lutte contre l'antisémitisme. Des personnalités de gauche et de droite sont nombreuses à réagir, notamment sur Twitter, où il publie en masse des messages de soutien. À l'Assemblée nationale, lors de son hommage à la victime, le Premier ministre Édouard Philippe est applaudi par l'ensemble du Parlement, Rassemblement national et France insoumise compris. Fait suffisamment rare en politique, l'Assemblée affiche la volonté claire d'unir la nation autour du meurtre barbare d'une personne fragile, et juive, ne cessons pas de le répéter. À l'initiative du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France, une marche blanche est organisée à Paris, mercredi 28 mars. Les principales forces politiques annoncent leur participation. Mais le président du CRIF, Francis Kalifate, prend une décision radicale contre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, à qui il fait savoir qu'ils ne seront pas les bienvenus.
Il est tout de même heureux que tout le monde demande un prompt châtiment lorsqu'on est face à un crime d'une telle ampleur. Mais néanmoins, est-ce que pour autant, moi, organisateur d'une manifestation, j'ai envie d'avoir à mes côtés, pour lutter contre l'antisémitisme, des gens qui, de leur côté à eux, ne luttent pas contre l'antisémitisme et parfois sont des vecteurs d'antisémitisme dans notre pays? Non, et ni Marine Le Pen, ni Jean-Luc Mélenchon ne seront les bienvenus dans cette manifestation. Que les choses soient claires, tous les deux sont pour nous des vecteurs de haine dans notre pays. La haine que nous connaissons de l'extrême droite d'un côté, la haine d'Israël de l'autre côté, et qui est aussi la haine des Juifs en réalité, de l'autre côté à l'extrême droite.
La déclaration de Francis Khalifat sur BFM TV fait réagir. Certains politiques, comme Rachida Dati, Benjamin Griveaux, Nicole Belloubet ou Raphaël Glucksmann, reprochent au CRIF de nuire au message de rassemblement, pourtant souhaité par l'ensemble des partis. Interrogé à nouveau sur RTL, le président du CRIF persiste et signe. Il cible particulièrement Jean-Luc Mélenchon. Selon lui, la position de sa formation à l'égard d'Israël doit être éclaircie. Mais qu'importe l'avis du CRIF ? Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen comptent bien se rendre au rassemblement. D'autant qu'ils sont soutenus par Daniel Knoll. En plus de vivre un drame, le fils de la victime devient malgré lui un argument politique.
Nous appelons tout le monde, je dis bien tout le monde, les gens qui ont une mère peuvent me comprendre. Or, tout le monde a une mère. Le CRIF fait de la politique. Et moi, j'ouvre mon cœur. J'ouvre mon cœur à tout le monde, à tous ceux qui ont une mère, c'est-à-dire tout le monde. Tous les gens sont concernés. C'est insupportable aujourd'hui en France de savoir que quelqu'un peut mourir comme ça, de cette façon aussi affreuse. Donc toutes les mères, tout le monde est concerné. Il n'y a pas de limite. Moi, je suis contre les limites.
Le soir du 28 mars, sur la place de la Nation, plusieurs milliers de personnes se retrouvent. Des associations et représentants de la communauté juive, bien sûr, mais également de nombreuses personnalités politiques de tous bords, et une dizaine de ministres en tête du cortège. Le président de l'Assemblée, François de Rugy, a même annoncé la fin des travaux à 17h30 pour permettre à tous les députés d'être présents. Le mot d'ordre est l'unité nationale en mémoire de la disparue. De nombreux anonymes sont également présents, munis de pancartes « Je suis Mireille »,« Mireille n'était qu'amour »,« Je suis juif », »,« L'antisémitisme tue ». Des femmes et des hommes, juifs, musulmans, chrétiens, laïcs ou pratiquants.
C'est l'étoile juive que portait ma mère pendant la guerre, elle a 75 ans. Et je pensais pas qu'aujourd'hui on tuerait des juifs en France.
C'est un peu notre grand-mère à tous, donc c'était important pour nous d'être là.
On se sent intimement violé dans son identité. Enfin, ce n'est pas parce que certaines personnes veulent nous réduire à une religion que nous ne sommes que ces gens-là. Nous sommes français, nous sommes juifs et avant tout nous sommes humains.
Et très vite, des huées parviennent aux abords du rassemblement. Jean-Luc Mélenchon et quelques-uns de ses députés, Adrien Quatennens, Alexis Corbière, Éric Coquerel, sont pris à partie par des membres de la Ligue de Défense Juive, un mouvement d'extrême droite qui leur bloque l'accès au cortège. Ces figures de la France insoumise sont très vite contraintes de quitter la manifestation, escortées par des CRS sous les busclades et les insultes genre collabo, enculé, je cite. Dans le même temps, Marine Le Pen est elle aussi huée. Pas exactement de la part des mêmes personnes. Elle est d'ailleurs en partie escortée par des militants de la LDJ qui viennent de virer les insoumis. Mais sa présence choque de nombreux manifestants. D'autant que la veille, Jean-Marie Le Pen a été condamné par la Cour de cassation à 30 000 euros d'amende pour avoir une nouvelle fois qualifié les chambres à gaz de « détails de l'histoire ». On n'en sort pas.
Depuis 40 ans, le Front National déverse la haine. Je ne suis pas un point de détail. Son père a parlé de point de détail. Je parle en tant que moi, petit-fils de déporté. Je trouve insupportable qu'elle n'ait même pas honte de partir. Elle est la cause du problème. Elle a dit la haine entre juifs et arabes. Nous, juifs et arabes, on mérite comme nos grands-parents en Tunisie de vivre la main dans la main. C'est scandaleux ce qui se passe. C'est la haine. C'est la haine et on se couche devant. Et plus tard, on sera avec eux. On se couche pour eux.
Le rassemblement s'achève après un recueillement devant le 30 avenue Philippe-Auguste. Le soir même, Jean-Luc Mélenchon tente de relativiser. Il ne faut pas confondre quarante énergumènes avec des milliers de braves gens que compte ce pays. Bon. Mais quelques jours plus tard, dans une note sur son blog, le chef des Insoumis laisse éclater sa colère. Il qualifie Francis Khalifat de chef communautaire et le CRIF de secte communautaire, voire même de groupuscule ethnique, se réclamant des intérêts d'un État étranger, comprenez Israël. Puis il déclare « Francis Califat et la LDJ ont fait plus pour l'antisémitisme à cette occasion que de dizaines de basses besognes des vecteurs antisémites. » Si les relations entre le CRIF et la France insoumise étaient déjà inflammables, la marche blanche autour de la mort de Mireille Knoll a définitivement enterré toute possibilité de dialogue entre les deux camps. 3 ans et demi plus tard, le 26 octobre 2021, le procès de Yassine Mihoub et d'Alex Karim Bakus s'ouvre devant la cour d'assises de Paris.
Ce procès, la famille de Mireille Knoll l'attend depuis 3 ans, et en premier lieu le fils de la victime. Il espère un verdict exemplaire contre les meurtriers de sa mère.
Là, on attend un verdict très sévère. Vous imaginez votre mère assassinée de 11 coups de couteau, brûlée, et que ces gens pourraient sortir d'ici 10 ans, 15 ans et recommencer, et peut-être tuer votre mère ou votre grand-mère. C'est insupportable.
Au premier jour du procès, la salle d'audience est remplie de journalistes et de nombreux policiers, tandis que la famille Knoll et ses avocats s'installent sur les bancs des parties civiles. Dans le box, Yassine Mihoub et Alex Karim Bakus sont placés côte à côte. Physiquement, tous les opposent. Le premier est large, imposant, tout en gueule. Le second est replié sur lui-même, les yeux baissés, silencieux. Leur façon de s'adresser à la cour est très différente également. Yassine Mihoub est du genre provocateur, accoudé à la vitre du box comme au comptoir. Alex Karim Bakus lui fait plutôt bon élève, répond aux questions sans élever la voix. Et comme lors de leurs premières auditions, chacun se renvoie la responsabilité du meurtre de Mireille Knoll. C'est pas moi, c'est lui. Alex Karim Bakus martèle. Oui, j'ai volé l'octogénaire, mais je ne l'ai pas tué. C'est vrai, il a prêté son briquet à Yassine Mihoub qui a mis le feu à l'appartement. D'ailleurs, l'intéressé reconnaît l'incendie, mais il nie le meurtre, lui aussi. Il dit que c'est Karim Bakus, le tueur, que c'est un malade mental, un menteur. Face au président, il remonte le fil de ce 23 mars 2018 et dit « On a bu du Porto chez Madame Knoll. Je faisais des allers-retours entre le salon et le balcon pour fumer des cigarettes. Je les ai perdues de vue moins de 5 minutes. Ça suffit pour qu'elles soient poignardées. » Version bien peu crédible, d'autant que sa longue audition est remplie de nombreuses provocations. Par exemple, il dit à propos de la victime « Je pense que si ça avait été une Géraldine ou une Fatima qui aurait été tuée, ça aurait fait moins de bruit. » Antisémite jusqu'au bout des ongles. Puis interrogé sur le nombre de morts durant la Shoah, il commente, désinvolte, toujours avec son langage et ses fautes de français, 1 ou 2 millions de morts. On ne sait pas, on ne peut pas le prouver. Hein, on n'était pas là, ni vous ni moi. Et il répète que le même Hamedi Coulibaly, le terroriste de l'Hyper Kacher, est un brave type. Alors certes, il assume avoir fait de mauvais choix. Mais il le dit, il n'avait aucune raison d'en vouloir à Madame Knoll. Sur France Inter, Mathilde Vinceneux revient sur les parcours de vie des accusés.
Quand le président les interroge sur leur parcours, leurs multiples passages en prison, les deux hommes racontent une vie marquée par la violence. Yassine Mihoub se souvient d'un père absent qui mettait des patates, d'un viol subi à 12 ans. Il raconte ses excès de colère et son alcoolisme. Alex Karim Bakus, lui, décrit une enfance chaotique. Il est placé à l'âge de 8 ans, interné plusieurs fois en hôpital psychiatrique. Les deux hommes se sont connus en détention. Ils se sont recroisés par hasard avant de se retrouver le jour du drame. Mireille Knoll était mon amie, ma confidente, assure Yassine Mihoub pour sa défense. Il est le fils d'une voisine. Alex Karim Bakus, lui, s'est scarifié en prison pour écrire le mot innocent sur ses cuisses et sur ses bras.
Pour la cour, la tâche est complexe. Car à part les deux accusés, personne finalement ne sait ce qui s'est passé exactement dans le huis clos de l'appartement de Mireille Knoll. Aucune preuve matérielle ne permet de savoir qui des deux a commis le meurtre. Et l'arme du crime n'a jamais été retrouvée. Mais pour l'avocat général, seul Yassine Mihoub a tué la vieille dame. Pendant plus de 2 heures de réquisitoire, le magistrat raisonne par élimination entre les deux versions. Il ne croit pas celle de Yassine Mihoub, il ment, assure-t-il. Quant à Alex Karim Bakus, il n'est selon lui ni le complice ni l'auteur du meurtre de Mireille Knoll. Mais par contamination, l'antisémitisme comme un poison l'a atteint lui aussi. Car l'appartenance à la religion juive de Mireille Knoll avait laissé croire à Karim Bakus, rappelons-le, qu'il y aurait des choses de valeur à voler chez la victime. L'avocat général lui demande alors « Vous avez vu que Mireille Knoll était morte, et qu'est-ce que vous avez fait ?» vous l'avez volée morte, quand le cadavre était encore chaud. Au terme de 2 semaines de procès, Yacine Mioub est reconnu coupable du meurtre antisémite de Mireille Knoll. Il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, avec peine incompressible de 22 ans. Alex Karim Bakus, lui, est reconnu coupable de vol à caractère antisémite. Il est condamné à 15 ans de réclusion, assorti d'une peine de sûreté des 2/3. À la sortie de l'audience, le soulagement se lit sur les visages de la famille Knoll.
J'attendais ce verdict depuis longtemps. Il est à la hauteur de mes espérances. Et je vais peut-être pouvoir enfin faire mon deuil. Merci.
Enfin, la page judiciaire se tourne pour les proches de Mireille Knoll. Mais rien au cours des débats n'a permis de désigner à coup sûr l'auteur des 11 coups de couteau. Qui a fait quoi ce 23 mars 2018 ? Seuls Yacine Mioub et Alex Karim Bakus le savent. Depuis, Alan et Daniel Knoll ont créé une association pour faire vivre la mémoire de leur mère. À Paris et à Marseille sont inaugurées les allées Mireille Knoll, ainsi qu'un jardin en Israël. Pendant les Jeux Olympiques de Paris 2024, une rue du village média lui rend hommage. Pour que surtout Mireille Knoll ne tombe pas dans l'oubli, quand on sait à quel point, concernant l'antisémitisme, l'ensablement des mémoires peut être mortifère.
Bien sûr, c'est très important de voir autant de personnes qui honorent encore la mémoire de ma sœur. Sarah Halimi est rentrée dans le cœur, rentrée dans les foyers de combien de maisons ? Combien de maisons, combien de personnes ?
Je ne souhaite qu'une chose, c'est que bientôt nous n'ayons plus besoin de marche blanche, que nous n'ayons plus besoin de commémorations comme celle-ci, qui signifierait que l'intelligence, l'esprit d'ouverture est présent parmi notre société.
En 2022, les familles de Sarah Halimi et de Mireille Knoll sont réunies à Nogent-sur-Marne pour l'inauguration d'un jardin au nom des deux femmes. Dans ce jardin est apposée une stèle sur laquelle il est écrit « Sarah Halimi et Mireille Knoll, lâchement torturées et assassinées parce que juives, victimes parmi les victimes d'un islamisme radical, de la haine antisémite et de l'obscurantisme ». En novembre 2024, Alan Knoll est invité sur Europe 1. La voix encore brisée par l'émotion, il confie « Je ne me remets pas de la façon dont ma mère est partie ». On ne vit pas, non, on ne vit pas comme on devrait vivre.
France Inter. Affaire sensible. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, le meurtre de Mireille Knoll, notre invité, qui est chez lui aussi d'ailleurs. Thomas Legrand, bonjour.
Bonjour Fabrice.
Vous êtes journaliste, éditorialiste politique pour le journal Libération et surtout vous présentez et produisez l'émission Enquête de politique sur France Inter tous les dimanches à 18h. Rien de ce qui se finit en isme ne vous échappe, dont l'antisémitisme évidemment sur lequel vous vous êtes penché. Il faut rappeler quand même qu'il est protéiforme concernant notre histoire. Mioub, lui, montre un antisémitisme de l'ignorance, mais surtout politique, on l'a vu, hein, avec ses affiches radicalisées en prison. Son complice, lui, c'est plutôt de ce qu'on peut appeler l'antisémitisme de l'ignorance. Presque l'antisémitisme ordinaire, si tant est que ce mot soit possible.
L'antisémitisme du stéréotype.
Ouais.
Le stéréotype, c'est la base du racisme, en fait. Quand on catégorise tel type de population à tel type de comportement, le stéréotype le plus classique pour les Juifs, c'est ils sont riches.
En conséquence dramatique, qui renvoie aussi au meurtre de Ilan Halimi.
Bien sûr, c'était la motivation. Et c'est intéressant, dans le récit que vous venez de faire, à un moment, vous faites le comparatif avec, c'est chronologique, hein, il y a l'assassinat d'Arnaud Beltrame qui apparemment n'a rien à voir avec l'antisémitisme. Et c'est vrai que ça n'a rien à voir avec l'antisémitisme en surface, mais Emmanuel Macron fait le lien, parce que c'est dans l'actualité. Et en fait, c'est intéressant parce que l'islamisme radical et l'islamisme terroriste basent évidemment une partie de son action sur l'antisémitisme. L'antisémitisme est l'anti-Occident, mais l'antisémitisme est un des facteurs, un des éléments des plus importants de cet islamisme, l'un des moteurs, l'un des carburants en tout cas, et dans l'antisémitisme classique chrétien tel que on l'a vécu jusqu'à la fin de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale.
Ouais, ils ont assassiné Jésus.
Voilà, ils ont le côté déicide, évidemment, jusqu'à à la fin de la guerre, ou en tout cas exprimé jusqu'à la fin de la guerre. Après, il existait encore, mais il ne pouvait pas être exprimé à l'extrême droite. Il y avait aussi l'antisémitisme théorisé par Drummond, par tout un tas de théoriciens, l'antisémitisme politique, radical, alors nazisme et puis pétainiste.
Et ça commence avec Maurras et l'ennemi intérieur.
Voilà, l'ennemi intérieur de Maurras, parce qu'il faut toujours un ennemi intérieur et un ennemi extérieur pour l'extrême droite, et ça continue aujourd'hui. Mais il y avait aussi cet antisémitisme de culture. Vous avez rappelé que les accusés n'étaient pas du tout islamistes, n'étaient pas du tout pratiquants, n'étaient pas musulmans pratiquants, ils buvaient de l'alcool, ils ne faisaient pas le ramadan. Donc c'est pas un antisémitisme islamiste, c'est un antisémitisme de stéréotype, un antisémitisme populaire, exactement comme celui qui existait dans la population française, même parmi les gens qui n'étaient pas chrétiens, dans les années 40 et pendant la collaboration, et bien avant d'ailleurs, et peut-être même aussi après.
Et beaucoup dans les années 30. Hein.
Et dans les années 30, bien sûr.
Alors, puisqu'on en parle, il y a eu un débat intéressant aussi sur l'antisémitisme. Il y a d'un côté le rejet d'Israël, présenté comme un anti-sionisme, donc une idée politique, donc on a le droit. On s'aperçoit malheureusement que la frontière avec l'antisémitisme est très floue.
Oui, alors ça c'est une affaire très compliquée, parce que, évidemment, après la guerre, il y a un interdit bienvenu de l'antisémitisme, après ce qu'on a vécu. Et donc, des antisémites continuent à l'être sous couvert d'antisionisme. Mais il y a aussi parallèlement un antisionisme tout à fait vertueux et même juif. Hein, c'est les héritiers du bundisme. Le Bund, j'en parle aussi dans une de mes émissions, le Bund, c'est un mouvement social, en fait, presque syndical, de travailleurs juifs, et qui a produit toute une littérature intellectuelle antisioniste. Vous savez que une grande partie des intellectuels juifs d'avant-guerre étaient contre l'idée qu'il y ait une terre d'Israël, parce que finalement, pensaient-ils, la place des juifs était parmi les peuples parmi lesquels ils étaient installés, où ils faisaient commerce, ils avaient une vie, ils étaient ouvriers, ils étaient commerçants.
Avec une grande volonté d'intégration.
Avec une énorme volonté d'intégration. Et la République française ne serait pas ce qu'elle est sans l'apport des juifs, des intellectuels juifs, évidemment, sans l'apport aussi de l'affaire Dreyfus, sur laquelle, c'est sur cette affaire que la gauche républicaine et moderne s'est véritablement créée. Donc,
et que Théodore Herzl a eu cette idée de la création d'Israël en disant, si dans les pays des droits de l'homme, on arrache les galons d'un militaire parce qu'il est juif, il faut une terre.
Voilà, il faut une terre. Et vous savez que quand Théodore Herzl est venu en France, à la fin du 19e siècle, eh bien, il a rencontré des antisémites, il a rencontré Drummond, tout simplement parce que finalement, les antisémites français n'étaient pas pour qu'on tue tous les juifs, mais ils étaient pour qu'on leur trouve une terre et qu'ils s'en aillent. Vous voyez, donc c'est très compliqué. Il y a quand même un antisionisme qui existe et qui n'est pas forcément antisémite. Alors, aujourd'hui, évidemment, beaucoup d'antisionistes cachent leur antisémitisme derrière cette affiche, mais il ne faudrait pas non plus diaboliser l'antisionisme, c'est-à-dire l'idée que le principe même de la terre d'Israël soit quelque chose de mauvais. Il y en a qui le pensent même parmi les juifs.
C'est un avis politique.
C'est un avis, un avis politique.
En démocratie,
après,
c'est...
évidemment, dans la pratique, c'est compliqué. Aujourd'hui, alors qu'Israël existe, c'est compliqué de continuer à dire « Ah ben non, Israël est une mauvaise idée ». C'est un peu comme si on disait « Les États-Unis sont une mauvaise idée parce qu'on a tuer tous les Indiens ». Il faut trouver évidemment une autre forme, et l'antisionisme, certains qui se prétendent antisionistes sont antisémites, mais certains qui se disent antisionistes ont un avis politique qu'il faut respecter aussi.
Bien, alors, ce crime-là est ouvertement antisémite, doublé d'un féminicide, hein, n'oublions pas cet aspect. Mais enfin, je reviens sur ce qui s'est passé lors du meurtre de Sarah Halimi en 2017, c'est la même configuration.
Hein. Oui.
Un crime qui a eu peu de réception dans la classe politique, de nombreux juifs de France ont témoigné de leur grand sentiment de solitude à ce moment-là. Comment expliquer un tel manquement qu'on n'ait pas voulu dire tout de suite, franchement, mais si, c'est un crime antisémite.
Et c'est comme après le crime monstrueux d'Ozar Otaram à l'école à Toulouse, avec des enfants juifs tués à bout portant. Il n'y a pas eu de grande manifestation, et les juifs de France se sont sentis seuls. Ça, c'est terrible. Ça, c'est terrible. Et comment on explique ça? Alors, en réalité, je ne pense pas que ça puisse être par une sorte d'antisémitisme latent, une sorte de bienveillance pour antisémitisme. C'est un manque de réflexe parce qu'on manifeste, nous en France, on manifeste contre des pouvoirs qui sont puissants ou qui peuvent l'être. Donc, quand, après Carpentras, la profanation du cimetière juif de Carpentras, il y a eu des immenses manifestations, c'est parce qu'on manifestait contre un mouvement politique qui prenait de l'ampleur et qui pouvait arriver au pouvoir et qui était l'extrême droite et qui nous rappelait aussi un pouvoir, le pouvoir pétainiste. On sait qu'on a dans notre ADN français une possibilité d'antisémitisme chrétien et puissant. Donc, on manifeste contre des puissants. Et là, finalement, il y a, il faut dire les mots, ce nouvel antisémitisme qu'on dit des banlieues. Je mets des guillemets parce qu'il est très utilisé par beaucoup de gens à l'extrême droite ou dans un milieu médiatique bolorisé, par exemple. Cet antisémitisme des banlieues, il sert souvent à stigmatiser les banlieues. Mais en même temps, il y a tous ces stéréotypes qui existent. Et tous les profs qui travaillent en banlieue vous le diront, ils sont très préoccupés par ces stéréotypes antisémites qui existent et qui prospèrent. Et finalement, une partie de la gauche, et la gauche, c'est ce qui est le moteur dans toutes les manifestations de rue, hein, en France, c'est normal, une partie de la gauche se dit, si on manifeste après un crime antisémite commis par des jeunes issus de l'immigration, eh bien, on manifeste contre d'autres victimes. Et ça leur paraît difficile. Et c'est une faute de ne pas le faire, même si c'est difficile de le faire, parce que on veut trouver des excuses. La gauche veut toujours trouver des excuses aux victimes, aller du côté des victimes. Mais là, c'est qui les victimes? Tout le monde a l'air d'être des victimes. Sauf qu'au moment où il y a un crime antisémite, il y a un crime antisémite et on se bat contre l'antisémitisme. Et c'est ça, la grande solitude vécue par les Juifs de France. C'est une terrible déchirure. Et moi, je trouve ça dramatique.
Et les Juifs de France ont un autre problème aussi, on va dire les choses, hein, avec LFI, avec ce qu'ils considèrent comme un clientélisme électoral à l'adresse des musulmans, et qui va peut-être, même certainement, construire un antisémitisme. Des banlieues, notamment.
Les Juifs c'est très sensible. Oui, hein. Oui, c'est très sensible. Moi, je trouve qu'il y a, des gens qui jouent avec le feu, LFI et le CRIF. Je mets le CRIF dedans. Quand le CRIF, je viendrai à LFI, mais quand le CRIF, alors le CRIF a changé de patron par rapport au récit que vous venez de nous faire, hein, celui d'aujourd'hui est plus modéré, mais quand même, quand le CRIF aujourd'hui ne dit rien de ce qui se passe en Israël et à Gaza, parce que Netanyahou et sa terrible répression, et ses massacres, ses crimes de guerre, Netanyahou dit qu'il le fait au nom de l'Occident et au nom des Juifs. Il dit que ceux qui le critiquent sont des antisémites. Et donc, peut-être que le CRIF devrait dire « mais pas en notre nom ».
Ouais.
Évidemment, le CRIF doit se battre pour le retour des otages et doit mettre en avant l'image des otages, et on doit tous être mobilisés pour que les otages soient rapatriés dans leur famille, évidemment. Mais en même temps, il faut aussi dénoncer ce que fait Israël en ce moment en Palestine, dans les territoires occupés, et à Gaza, qui sont des massacres inouïs. Et ça, le CRIF ne le met pas en avant. Voilà pour le CRIF. Maintenant, pour LFI.
Hey.
Pour LFI, alors, ne pas avoir voulu caractériser le 7 octobre comme un acte terroriste, c'est vécu comme une faute existentielle pour le reste de la gauche. Rappelons que la gauche moderne et républicaine s'est créée avec l'affaire Dreyfus, où il y a eu un combat entre une partie de la gauche, Jules Guesd, et une autre partie de la gauche, Jaurès notamment, sur cette histoire. Est-ce que l'affaire Dreyfus était une histoire entre bourgeois et militaires, ça ne nous regarde pas, nous la gauche, ou c'était une histoire de liberté et de justice? Et bien sûr c'était ça, et c'est finalement ce qui a prévalu à gauche, et toute la gauche après cette affaire Dreyfus a convenu que c'était un acte fondateur, la liberté, la justice, l'antiracisme, c'était quelque chose de fondateur et d'essentiel pour la gauche. Et aujourd'hui, on a l'impression que Jean-Luc Mélenchon, je parle de lui parce que je pense qu'il a un poids un peu très important sur LFI et même peut-être trop important s'agissant de ces questions-là, où il y a en fait plus de débats, de ce que je sais. Jean-Luc Mélenchon a peur que si on pointe les banlieues et l'antisémitisme de stéréotypes qui naît et croît en ce moment dans les banlieues, et qui est souvent d'ailleurs instrumentalisé par des organisations islamistes, il a peur, il craint que finalement les banlieues soient stigmatisées. Moi, je ne rentrerai pas dans le calcul, dans la stratégie électorale. Ça, franchement, je pense que c'est secondaire. Je pense qu'il craint vraiment, et il peut avoir de bonnes raisons, que les banlieues soient stigmatisées par l'extrême droite et qu'en ce moment, c'est l'extrême droite qui est le danger. Jean-Luc Mélenchon est sur une ligne de crête qui est très compliquée à suivre, qui est très compliquée à tenir. Je mets de côté l'affaire électorale, j'y crois pas beaucoup. L'affaire stratégique. Dans ma longue carrière d'analyste politique, vous savez, quand on essaye de savoir ce qui est sincère et ce qui est stratégique, et de séparer ce bon grain de livret, on se trompe souvent. Moi, je me contente d'observer que Jean-Luc Mélenchon, un homme de gauche, il voudrait essayer de faire en sorte que les banlieues ne soient pas stigmatisées par une extrême droite qui est le danger principal pour lui en ce moment. Et non pas les banlieues, mais l'extrême droite qui a plus de chances d'arriver au pouvoir que les banlieues, évidemment.
Et que Mélenchon.
Et que Mélenchon aussi. Et donc, ne voulant pas que donner du grain à moudre pour que ces banlieues soient stigmatisées, eh bien, il a tendance un peu à nier et à sous-estimer cet antisémitisme qui... naît. Donc sa ligne de crête est très compliquée, sans doute trop compliquée à suivre, et finalement il ne fait pas le boulot. Le boulot de la gauche, c'est de lutter contre le racisme et l'antisémitisme.
Et alors ça nous renvoie aussi à la présence du Rassemblement National lors du rassemblement d'hommage. Khalifa dit non, mais beaucoup de juifs de l'organisation, hein, d'ailleurs de cette manifestation, ne sont pas gênés que le Rassemblement National soit là, c'est ce qu'on a raconté.
Oui, alors, c'est compliqué de dire, là encore c'est un avis personnel, c'est compliqué de dire on ne veut pas qu'un tel ou un tel vienne. C'est une manifestation nationale, on était bien content à l'Assemblée Nationale que tout le monde se lève et tout le monde soit d'accord, de l'extrême droite à l'extrême gauche, ça oblige l'extrême droite d'ailleurs peut-être à revisiter... son passé qui n'est pas si lointain et qui est même peut-être encore un peu présent. Vous avez rappelé que juste avant, Jean-Marie Le Pen avait été encore condamné pour ses propos sur la Shoah et le détail. Donc, là encore, le CRIF a mal géré d'un côté et de l'autre. Il y a des extrémistes dans ces mouvements-là. Mais ce que je vois surtout dans ce que vous nous racontiez tout à l'heure, Fabrice, c'est l'écho avec aujourd'hui. Et Jordan Bardella qui doit se rendre en Israël pour une conférence, oui. Dans un acte finalement dans l'acmé de la banalisation. Et ça, c'est vraiment, alors ça c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que il faut rappeler que le Rassemblement National, qui vient du Front National, qui est l'émanation du Front National, et le Front National a été créé par des antisémites en partie, mais par des antisémites des anciens Waffen-SS, et par Jean-Marie Le Pen, qui était antisémite, qui était un véritable antisémite. Moi, je peux le raconter personnellement, j'ai eu des discussions avec lui là-dessus, il était antisémite, c'est clair et net. Et Marine Le Pen n'a jamais désavoué complètement son père.
Thomas Legrand, dernière question. La France est-elle plus mal placée que ses voisins européens sur le terrain de l'antisémitisme ?
Fatalement, la France étant le pays qui a le plus de ressortissants juifs français, et un pays aussi qui a une immigration qui vient du Maghreb, musulmane, et qui est largement ghettoïsée, c'est-à-dire qui vit dans un entre-soi. Et ces deux facteurs favorisent ce nouvel antisémitisme qui est bien alimenté par à la fois les islamistes et à la fois, d'ailleurs, tous les illibéraux. Vous savez que les interventions russes, par exemple, pour booster certains comptes, certains messages sur les réseaux sociaux, on a observé, enfin, ceux qui sont chargés, comme Viginum, qui sont chargés d'observer ces interventions-là, ont montré que tout ce qui était islamiste ou tout ce qui était polarisé sur cette question était boosté par ce qu'on appelle de l'astroturfing, par les fermatrolles russe, par tout ce qui peut tordre la société française, tout ce qui peut alimenter ce que Giuliano D'Ampoli appelait la théorie du fil de fer, vous savez, là, pour couper la société française, pour casser la société française, c'est comme un fil de fer, on le tord dans tous les sens, jusqu'à ce qu'il se coupe, ce qui se casse lui-même. Et l'antisémitisme est un vecteur pour casser la société française, il faut y faire très attention.
Bien, ce sera le mot de la fin. Merci Thomas Legrand. Vous parlez de quel sujet dimanche qui vient?
Du masculinisme, le retour du masculinisme.
Bien, merci, à dimanche, au revoir.
C'était Affaires Sensibles, aujourd'hui le meurtre de Mireille Knoll, une émission que vous pouvez réécouter en podcast bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Guillaume Fischeux.